Mulligan.
Ardigan présente Malgré tout ce qui nous sépare de Sophie Talmen, lu par Maïté Perea-Lopez. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température ou quelque autre sujet de même importance, leur commune propriété étant qu'il ne supposait pas de réponse. Il s'attardait toujours un peu au seuil de la porte. Il regardait autour de lui. Un très léger sourire traduisait le plaisir qu'il semblait prendre à cet examen. Le même examen chaque jour et le même plaisir. Vercors, le silence de la mer. Première partie. Mai 1945. Avec le soleil viennent les nuages. Avec la nuit vient la paix. Proverbe breton. Chapitre 1. Tous pouvaient enfin le crier haut et fort. La France était libre. Le pays entier, même les oubliés de l'île. La veille, sur le continent, les habitants de Saint-Gravé avaient passé la journée agglutinés autour de la TSF des voisins, à l'affût de la moindre information. Les visages restaient crispés, tendus. Des esquisses de sourire, à peine, au coin des lèvres. La rumeur d'une reddition allemande circulait, mais on osait y croire. Certains applaudirent timidement. Tous demeuraient soucieux et impatients d'en avoir la confirmation. Et puis, le 8 mai, en début d'après-midi, la nouvelle officielle s'était répandue de bouche à oreille. La guerre était finie. Les cloches se mirent à sonner à toute volée. Une colonne de blindés américains traversa le bourg, soulevant un nuage de poussière sur les pavés. Les enfants couraient à côté des véhicules, recevant au vol des tablettes de chocolat et des chewing-gums. Des drapeaux tricolores, cousus parfois à la hâte, jaillissaient des fenêtres et flottaient au-dessus de la foule. Au milieu de cette liesse générale, Rose demeurait figée à la porte de l'épicerie, spectatrice d'un monde en train de basculer, incapable de se réjouir pleinement. L'ennemi, jusque-là tout-puissant, rasait les murs, tête baissée. Il avait beau avoir les mains menottées derrière le dos, il l'impressionnait encore, et elle peinait à le regarder en face. Comment tant de joie et de haine pouvaient-elles coexister? Et quand cesserait-elle d'avoir peur? En ce jour de fête, elle aurait tant voulu être chez elle, sur l'île de Groix, voir son père agiter un de ses drapeaux et serrer Joseph dans ses bras. Simone l'entraîna par la main pour rejoindre le cortège. La petite voulait danser, elle aussi, attraper une des sucreries distribuées par les GIs.
« Maman, allez, viens, allez !»
Elle lui résista pourtant. C'était bien la première fois. Depuis qu'elles avaient quitté l'île 5 mois plus tôt et qu'elles avaient été recueillies dans une ferme de ce village du centre-Bretagne, Simone s'était mise à l'appeler « maman », par mimétisme sans doute, entendant ce mot dans la bouche des autres enfants. Elle aimait à penser que c'était aussi pour lui exprimer son affection. Comment lui reprocher d'aspirer à une vie normale? En temps de guerre, on réfléchit différemment. On sait que l'existence est fragile, qu'elle ne pèse pas lourd. Alors on s'autorise à aimer plus intensément. Un homme venu d'ailleurs, une enfant abandonnée par les siens. À partir du moment où les actes sont guidés par l'amour, qu'ils aident à survivre, on ne pense pas aux conséquences. Pour sa petite protégée, Rose avait accepté de quitter l'île en décembre 1944, en embarquant sur le bateau du capitaine Puyon à destination de Concarneau, un des derniers convois de réfugiés Groisillons vers le continent. À 4 ans, Simone pesait à peine 10 kilos tout habillée et présentait des signes de dénutrition. Pâleur cadavérique, ongles cassants, infections à répétition. Depuis le débarquement en Normandie, près d'un an déjà, les habitants